Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Mocha Politique. Aujourd'hui, nous partons en Italie pour parler de deux actualités majeures qui, chacune à leur manière, nous concernent tous. D'un côté, nous avons une avancée historique. Le féminicide est désormais reconnu comme un crime à part entière, avec une peine pouvant aller jusqu'à la prison à vie. Une loi, adoptée à l'unanimité, saluée comme un véritable tournant. De l'autre, un pays en mouvement qui manifeste, se mobilise et revendique. Une grève nationale de 24 heures, le 28 novembre dernier, pour réclamer de meilleures conditions de travail, plus de justice sociale et dénoncer les choix économiques et militaires du gouvernement. Ces deux histoires se rejoignent autour d'une idée centrale, la capacité de la société à se lever, à s'indigner et à agir pour la justice et la dignité. Et pour terminer, nous parlerons d'un film qui m'a profondément touchée et bouleversée et qui illustre à sa manière ces combats humains et émotionnel. Mais tout d'abord, commençons par la loi sur le féminicide. Mardi 25 novembre 2025, un vote historique a eu lieu à la Chambre des députés italienne. La loi reconnaît désormais le féminicide comme un crime autonome, avec des peines pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité. Cette loi, déjà validée par le Sénat en juillet, a été adoptée à l'unanimité avec 237 voix pour et aucune contre. Elle est introduite dans le Code pénal par l'article 577 bis et précise que tout meurtre d'une femme motivé par la discrimination, la haine, le contrôle ou le refus d'une relation constitue un féminicide. Avant cela, le Code prévoyait seulement des circonstances aggravantes pour les homicides commis par un conjoint ou un membre de la famille. Aujourd'hui, la loi élargit la définition et reconnaît officiellement que la violence sexiste est spécifique et mérite d'être nommée. La première ministre, Giorgia Meloni, a qualifié ce vote de signe important de cohésion politique. Et Elie Schlein, qui est la dirigeante du Parti démocrate, a souligné qu'il était rare, en cette période, que la majorité et l'opposition réussissent à s'accorder sur une question aussi sensible. Mais cette avancée historique n'est pas née dans le vide. Elle fait suite à l'indignation, à la colère qui a été suscitée par le meurtre de Giulia Ceceni, 22 ans. Qui a été tuée en 2023 par son ex-petit ami. Cet événement avait provoqué une prise de conscience nationale et qui avait permis aussi de montrer les limites des protections existantes. Les chiffres sont frappants. Ils sont sans appel. Selon les stats, sur 327 homicides recensés en 2024, 116 concernaient des femmes et dans 92% des cas, elles ont été tuées par un homme. Entre janvier et octobre 2025, 85 femmes ont été victimes d'un homicide volontaire contre 102 sur la même période en 2024. Malgré une légère baisse du nombre total, plus d'un tiers des homicides concernent désormais des femmes, un record jamais atteint auparavant en Italie. Si cette loi est saluée, elle soulève aussi des critiques notables. 77 juristes estiment qu'elle pourrait avoir peu d'effets pratiques, car les tribunaux italiens peuvent déjà prononcer des peines à perpétuité pour des meurtres motivés par le genre. Des experts, comme Emmanuel Ecorn, rappellent que dans d'autres pays, notamment en Amérique latine, les lois sur le féminicide n'ont pas toujours réduit le nombre de meurtres. Pour Cesare Parodi, président de l'Association nationale des magistrats, la prévention ne passe pas par des peines plus sévères, mais par des changements culturels et institutionnels profonds, comme un meilleur financement des services de soutien et de l'éducation à l'égalité. Et justement, on parle beaucoup en ce moment de l'éducation à la vie sexuelle, à la vie affective, et c'est un sujet qui a été remis sur la table aussi en Italie, comme c'est le cas en France. Pourtant, le gouvernement en Italie insiste. Cette réforme fait partie d'un ensemble de mesures plus larges, comprenant le doublement des fonds pour les refuges, de nouvelles aides financières aux survivantes et des programmes garantissant leur indépendance économique. Au-delà de l'Italie, puisque actuellement nous sommes en train de parler de la situation en Italie, cette question elle est mondiale, parce que lors de la conférence de Rome sur le féminicide en novembre, il a été rappelé qu'une femme est tuée toutes les 10 minutes dans le monde, et je pense qu'il faut se rendre compte de cela. La lutte italienne que l'on vient de décrire, elle s'inscrit donc dans un contexte beaucoup plus large et beaucoup plus important, dans le contexte européen et international, où la prévention et la protection des victimes sont au cœur des discussions. Mais la justice ne se limite pas aux lois. Elle passe aussi par l'action collective et la mobilisation sociale, comme nous l'avons vu en Italie ces derniers jours. Après la grande mobilisation du 4 octobre pour Gaza et contre le gouvernement de Giorgia Meloni, l'Italie s'est de nouveau arrêtée le vendredi 28 novembre. De Palerme à Milan, les trains, les bus, les métros, les avions, les écoles, les hôpitaux et même la presse ont été paralysés par un mouvement national de 24 heures. À l'initiative de l'Union syndicale de base, l'USB, cette grève rassemblait à la fois des travailleurs, des syndicats, pour demander une révision du budget gouvernemental jugé insuffisant. Les revendications étaient claires, augmenter le pouvoir d'achat pour les salaires et les retraites, investir dans l'industrie, la santé, l'éducation, les transports et garantir des services publics de qualité pour tous. L'Italie est l'un des rares pays d'Europe sans salaire minimum légal avec la Grèce et les salaires n'y ont quasiment pas augmenté depuis 30 ans. 3 ans après l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, on en avait déjà parlé dans un autre épisode, le quotidien des Italiens ne s'est pas bien amélioré, malgré les annonces de ses résultats économiques. Mais la mobilisation ne s'est pas arrêtée là. Les grévistes ont également dénoncé l'augmentation des dépenses militaires de l'Italie, qui reste un fournisseur d'armes à Israël. En 2024, le pays aurait autorisé des exportations d'armes et de munitions pour environ 5,8 millions d'euros. Les manifestants réclament la rupture des liens économiques et militaires avec Israël en solidarité avec la Palestine. Le 7 octobre 2025, une plainte pour complicité de génocide a même été déposée à la Cour pénale internationale contre Giorgia Meloni et deux de ses ministres. Cette grève illustre un mouvement pluriel et engagé qui relie à la fois la lutte sociale, la justice économique et la solidarité internationale. Elle montre aussi la colère d'une population confrontée à la précarité constante, à l'inflation et à la stagnation des salaires et qui entend faire entendre sa voix. Ces deux histoires, la loi sur le féminicide et la mobilisation sociale, nous montrent que les lois et les chiffres ne suffisent pas à eux seuls. Pour comprendre ce que cela signifie sur le plan humain, il faut parfois rentrer dans des histoires personnelles comme celles racontées au cinéma. C'est pour cela que je voulais vous parler du film « Il reste encore demain » de Paola Cortellesi. Le film raconte l'histoire de Delia, confrontée à la domination masculine et aux violences, et elle explore avec une justesse bouleversante la peur, la résistance et le courage des femmes face à l'oppression. Je dois vous avouer que ce film m'a profondément touchée et bouleversée. Il nous rappelle que derrière chaque chiffre, chaque loi, chaque manifestation, il y a des vies humaines, des histoires intimement personnel et des luttes réelles. Je vous encourage donc vivement à aller le voir pour ressentir, comprendre et réfléchir à ce que signifie réellement le féminicide et la lutte pour la dignité des femmes. Et surtout, surtout, souvenez-vous, il n'est jamais, jamais trop tard pour se lever, agir et dénoncer. Entre les lois, les mobilisations et les récits comme celui de ce film, il reste toujours demain pour faire la différence et protéger celles qui en ont besoin. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mocha Politique. Prenez soin de vous et souvenez-vous, chaque action compte, chaque voix compte, et il reste toujours demain pour pouvoir agir.